Bonjour et merci de braver la pluie. C'est vrai que ça devient un petit peu difficile en fin de festival. On a eu trois très, très belles journées, un petit peu plus enfin. On va arriver, même si le public est un petit peu moins nombreux, c'est pas grave. Comme on dit aux États-Unis, the show must go on. Pardonnez mon anglais extrêmement pitoyable, mais vous avez compris le sens. Donc on est ravis de vous accueillir pour l'un des derniers cafés littéraires des Imaginales 2012. Le dernier, tout à l'heure, ça sera « Pourquoi écrivez-vous ?» que j'aurai le plaisir d'animer pour clore cette rencontre. En tout cas, le roman historique, vous l'avez bien compris, même si c'est nouveau, relativement nouveau aux Imaginales, est en train de prendre ses marques. On va continuer d'année en année à le construire, à le développer et donc à accueillir de plus en plus d'auteurs de romans historiques qui devraient fort bien s'entendre avec les auteurs de fantasy parce que parfois, de l'un à l'autre, et je pense que Mireille Calmel est particulièrement emblématique de ce style de littérature. On ne sait plus très bien si on est dans le roman historique, dans le fantastique, dans la fantaisie, et finalement, si le plaisir est là, le plaisir de lecture, quelle importance. Donc autour de moi, des habitués du festival, Christina Rodriguez, déjà habituée depuis déjà 2 ans en tout cas, Frédéric Lenormand, on s'habitue très vite, je crois, en général. Tan Van Tranot qui est là pour la première année, mais on espère aussi revoir. Et puis Mireille Calmel, c'est une rencontre différée depuis un moment, mais ça y est, cette fois-ci, elle a pu se rendre disponible pour nous. Et donc je tenais à la remercier tout particulièrement. C'est toujours un peu plus difficile quand on arrive alors que le festival n'a pas encore construit ses marques sur le roman historique. C'est en train de se faire, doucement, mais sûrement, le public commence à réaliser que l'imaginaire et le roman historique se marient.
C'est génial, donc je reviens l'année prochaine.
Ah, bah alors là, j'en suis encore plus ravi. Je n'osais pas trop tôt, je voulais le faire en dehors, au corps du réno. Non, je ne suis pas sûr que j'ai très envie d'y revenir. En tout cas, merci. On va donc partir directement sur ces romans. Des périodes très différentes, des lieux très différents. Ça part de l'Antiquité, avec Christina Rodriguez, toute une série de romans. J'ai choisi, j'aurais pu en prendre d'autres, Meurtre sur le Palatin. C'est un des exemples de ce qu'elle fait par la rencontre entre le roman et puis l'histoire de Rome. Avec Tranot, nous allons avoir les corbeaux de la mi-automne, une enquête du marin mandarin Tan. Je dois dire, vous m'en pardonnerez que la dernière fois, c'est-à-dire je n'avais pas encore lu un seul roman, et là j'en ai déjà lu 3. Ça, c'est signe que ce n'est pas seulement le service minimum, mais l'envie vraiment de découvrir cet univers vietnamien du XVIIe siècle. Mireille Calmel, Aliénor, Le règne des lions, c'est la suite du livre d'Aliénor. J'ai voulu aussi prendre un roman récent, nous en lirons aussi un petit extrait. Et puis le XVIIIe siècle, on est un peu avant la Révolution française, et quelque part, on s'en rend compte. Alors, Frédéric Lenormand, qu'est-ce qui vous a amené, c'est un peu provocateur, Voltaire mène l'enquête. On sait bien que Voltaire n'a pas hésité à dénoncer l'absolutisme. On verra d'ailleurs qu'il le fait tout en faisant attention à ne pas avoir trop d'ennuis. Mais qu'est-ce qui vous a donné cette idée saugrenue de faire de Voltaire un détective privé?
Ça vient naturellement, en fait. Voltaire est quasiment l'inventeur du roman policier avec Zadig, puisque Zadig est en fait un enquêteur, c'est quelqu'un de très intelligent qui observe et qui tire des déductions de tout ce qu'il voit, qui lui permet de voir plus loin que les autres. Donc Voltaire a un lien avec le roman policier, et puis j'aime beaucoup Voltaire, et c'est un personnage extravagant, et c'est un cadeau pour un romancier d'avoir un type roublard comme ça, très intelligent, qui fait du scandale en permanence, même quand il ne veut pas, qui fait de tout, qui écrit des pièces de théâtre, de la philosophie, des poèmes, qui va dans tous les milieux et qui se déguise. Quand j'écris dans un chapitre que Voltaire se déguise en curé pour aller pour infiltrer des funérailles incognito, mais il le faisait. On a un récit de quelqu'un qui est allé dans un café célèbre au Procope au XVIIIe siècle et qui dit qu'il y avait un petit bonhomme assis dans le fond avec un costume d'abbé pour écouter ce qu'on disait de la nouvelle pièce, et c'était l'auteur et c'était Voltaire.
La réalité est parfois pas plus forte que la fiction, avec l'humain toujours le dessus, mais quand même. Petit extrait justement de Meurtre dans le boudoir, c'est le deuxième volume de cette série, j'espère parce qu'elle nous amuse aussi beaucoup, appelé un bel avenir. Les parties philosophiques de son recueil avaient sa préférence, notamment celle où il attaquait l'Église et la féodalité à la française. « Suis-je donc taquin ?» dit-il pour lui-même. Séran vint annoncer qu'un visiteur se permettait d'insister pour déranger les mourants qui lisent. Voltaire grogna. C'était horripilant, surtout quand on était en pleine révision de textes d'un intérêt capital pour la pensée moderne. Il n'y avait pas moyen de travailler en paix au bien-être du genre humain, même dans les derniers instants que vous accordez le grand projet de l'univers. « Dites que je suis mort, sauf si c'est pour acheter du grain, rendre de la paille, discuter de mes œuvres ou apporter un lavement. Je crois que c'est la police, » répondit le secrétaire, gêné. Les épreuves de la lettre philosophique anglaise bondirent en l'air. La police portuaire demanda à l'écrivain, il se précipita pour cacher ses livres de compte, imprudemment distribués sur deux tables, n'importe quel œil de comptable mal intentionné pourrait les voir. « Plutôt la police des mœurs, je dirais, l'informa Séran. Pourquoi la police portuaire voudrait-elle voir monsieur ?»« Pour rien, » dit Voltaire. Il lâcha ses livres de compte, rassembla les épreuves des lettres en un tas informe qu'il fourra sous le matelas. Il fallait espérer qu'on ne pousserait pas la barbarie jusqu'à déplacer un moribond pour fouiller sous son postérieur endolori, quoique parfumé. Ce Voltaire qui se prétend toujours mourant, c'est vraiment la réalité historique?
Ah oui, il a été malade toute sa vie. C'était le mourant le plus vieux du XVIIIe siècle. Il le disait lui-même, on a mis 9 mois à le baptiser bébé. Enfin, on a attendu 9 mois pour le baptiser. Le baptême n'était pas obligatoire à l'époque. On envoyait les bébés à la naissance et après, on faisait la cérémonie à l'église. Ses parents, il était tellement mal en point à la naissance que ses parents se sont dit « Bon, celui-là, il va pas durer longtemps, c'est pas la peine qu'on dérange le curé. » Et on l'a baptisé au mois de novembre, alors qu'il était né en février. Il a été malade toute sa vie. On pense qu'il avait une inflammation chronique des intestins. Donc il passait 3 jours par semaine au lit. Et il se soignait par des lavements. Il avait une armoire remplie de clistères, on le sait. Il a de toutes les tailles, il s'en faisait envoyer de toute l'Europe, y compris en verre de Murano, y compris un petit pour pouvoir faire un lavement en carrosse. S'il devait fuir en vitesse, il était toujours à même de se soigner sans arrêter la voiture. J'ai rien inventé. C'est ce qui est bien chez Voltaire, il n'y a rien inventé.
Alors justement, puisqu'on parle de l'invention, de la partie invention romanesque, d'enquête, et puis de la partie historique, le romancier historique, quel est un petit peu le curseur entre la documentation, le sérieux, la rigueur des faits, et puis le romanesque, Frédéric Lenormand?
Ah ben sur Voltaire, c'est très simple. Il écrivait 10 lettres par jour. On les a... Il y a 13 volumes dans la Pléiade. Donc c'est comme si j'avais son agenda, heure par heure, je sais ce que Voltaire a fait chaque jour. Je choisis une période intéressante, j'ai la réalité historique et j'essaye d'imaginer les dialogues et puis je case mon enquête dans les rares vides qu'il y a. Il n'y a pas grand chose à faire.
Merci à Rodriguez. Vous procédez comment? Parce qu'on a quand même un petit peu moins de documents sur la période romaine, même si on en trouve. Comment vous faites pour vous inventer complètement ou quand même vous avez fait un travail de documentation et de lecture?
Non, il faut toujours, quand vous faites le roman historique, il faut toujours un travail de documentation pas très important. Parce qu'il faut, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment bien connaître la période, vraiment être comme dans un poisson dans l'eau, dans la période sur laquelle on travaille, pour que le lecteur, lui, puisse y rentrer également sans s'en apercevoir. En fait, il faut vraiment apprendre tout ce que vous pouvez, toute la documentation dont vous avez besoin, et quelque part l'oublier. Travailler naturellement, et c'est ce qui va permettre au lecteur de rentrer dans l'histoire. Parce que justement, il va voir que c'est pas poussif. Il va voir qu'on lui fait pas un cours d'histoire, on lui raconte une histoire.
Mireille Calvin, justement, vous ne faites pas de cours d'histoire, rassurez-nous.
Non. Non, je suis tout à fait d'accord avec Christine. C'est avaler la documentation avant, et une fois qu'on l'a digéré, se mettre à écrire, quitte à y revenir si on a un doute sur quelque chose, quitte à vérifier après. Mais non, là, il faut que le lecteur oublie, effectivement, qu'on replonge dans quelque chose qui a existé pour lui laisser s'approprier les événements et les émotions.
Et pour vous, Talman Tramnat, vous fonctionnez comment? Comment on trouve une documentation sur le XVIIe siècle au Vietnam?
Assez difficilement en fait. À Paris, je suis allée assez souvent à l'école française d'Extrême-Orient parce qu'ils ont un grand fonds de livres, de récits de voyage, les missionnaires, bon, un peu après le XVIIe siècle qui m'intéresse, mais les choses n'ont pas tellement changé pour que je ne puisse pas utiliser ces documents. Donc il y a des récits de voyageurs, mais aussi des documents sur la médecine. Et il y a aussi également un fonds important à l'INALCO, au Longzo, à Paris. Et puis, il y a aussi d'autres documents qu'on peut consulter en ligne, surtout des documents faits par des chercheurs dans les universités américaines ou allemandes ou italiennes. Et quand c'est validé par les pairs, on peut espérer qu'on peut s'appuyer dessus pour faire son histoire.
Eh bien, voyons ce que ça donne. 9 flèches pour 9 corbeaux. Voilà un bel exploit qu'on s'est donné. Le conseiller Ti en lissant sa moustache. Je ne suis pas venu pour rien. Notre province reculée abrite des hommes de talent, répondit le mandarin Tan. Content que vous ayez pu le constater de vos propres yeux. Notez le surpoids que cet archer, tant acclamé, inspire du tribunal. Votre magistrat, contrairement à sa pratique de ses collègues du Sud, n'emploie que les gens capables. Le lettré digne, cintré dans sa veste vert forêt, dressa un doigt maigre pour ponctuer ses propos. Sa bonne humeur était quelque peu altérée par le fait que sa tunique semblait être coupée dans la même étoffe que le thé. Cela relevait d'une inadmissible faute de goût, comme s'il avait cherché à se fondre dans le décor. Il fallait qu'il tance le tailleur qui lui avait suggéré ce tissu d'ameublement. « Vous avez raison, les Trédines. À la capitale, nous manquons rarement l'occasion de faire des gorges chaudes du laisser-aller notoire des mandarins du Sud. Ceux qui se rallient à ce félon de Seigneur Nguyen sont des bras cassés qui ne sauraient servir le Seigneur Trim. Voir l'empereur Lé, glissa le mandarin Tan sur un ton anodin. Le conseiller se rattrapa de justesse. Bien sûr, le seigneur Trin, neuf que pour le bien de l'empereur et pour celui de la nation, tout le monde le sait. Le lettré Din se détourna pour cacher son sourire. Personne n'ignorait au contraire que le seigneur Trin, qui secondait l'empereur, nourrissait les ambitions démesurées. Ce flagorneur pour lequel travaillait le conseiller Ti n'attendait que la défaite de son rival Nguyen du Sud pour tenter d'usurper le trône. Leur hôte retint son attention. C'était un homme raffiné, dont la moustache lustrée semblait dégager une senteur de lilas. Sa peau, légèrement grêlée, accroissait le mystère de ses iris aussi sombres qu'une goutte d'huile. Il portait beau dans sa veste rouge pivoine, assortie à un pantalon, où tombait impeccable. Le temps passé au service du Seigneur du Nord avait conféré à ses gestes une aisance de diplomate qui renforçait encore son charme inné. En les observant de profil, Din eut soudain la sensation que le mandarin Tan était encore inexpérimenté, alors que son visiteur possédait la rondeur sophistiquée de ceux qui approchent de près le pouvoir. Le Nord, le Sud, des conflits. Quand on a suivi, il y a quelques dizaines d'années, la guerre du Vietnam, le Sud et le Nord, on se dit, mais est-ce que c'est une histoire peut-être encore plus ancienne, cette opposition entre ces deux parties du Vietnam? Et est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Évidemment, il y a un lien très, très fort entre les deux époques. Et ça date de mon... Ça provient de mon expérience personnelle parce que je suis née pendant la guerre du Vietnam que l'on connaît au XXe siècle, qui a opposé donc, le Vietnam aux Américains. Et en grandissant, donc, je me suis demandé mais pourquoi est-ce qu'on a eu cette guerre civile et je voulais comprendre les causes de cette occupation américaine du Vietnam. Donc en recherchant un peu dans l'histoire, bon, j'ai compris que les Américains étaient venus au Vietnam parce que les Français leur avaient laissé la place. Donc la question après, c'était mais pourquoi les Français étaient là ? La réponse est parce que le Vietnam avait été colonisé par les Français. Mais alors, on peut se poser la question, mais que faisaient les Français à cette époque au Vietnam pour le coloniser? Et la raison, c'est parce qu'un seigneur du Sud, qui s'appelle Nguyen, a fait appel aux Français pour l'aider à remporter la victoire contre un seigneur du Nord, le seigneur Trin. Et cette aide... qu'elle a apporté la victoire au Sud, a été chèrement payée puisque la porte a été ouverte aux Français, d'où le début de la colonisation. Donc, la première guerre civile, qui était vraiment très importante pour le pays, ce n'était pas celle du XXe siècle, mais celle du XVIIe siècle, qui a vu s'affronter donc, le seigneur Trinh du Nord et le seigneur Nguyen du Sud, avec la victoire du seigneur Nguyen.
Alors évidemment, vos romans, votre mandarin Tan, ne sont pas des cours d'histoire. Tout ça passe sans qu'on s'en rende compte. Mais ce mandarin, ce personnage de mandarin, vous l'avez, j'imagine, complètement inventé.
Inventé, oui, mais il a été inspiré en fait par un aïeul du côté maternel. Alors, un mandarin, c'est un officier de, qui a réussi des concours mandarinaux et donc qui sert l'empereur. Et donc, dans la famille, on avait un aïeul qui avait très bien réussi ses concours à un âge très jeune. Donc, vous imaginez que quand on était enfant, enfin ma sœur et moi, on avait vraiment cette ombre qui planait sur nous parce qu'on nous disait il faut réussir dans les études parce que dirait votre ancêtre, etc. Donc, devenu adulte, ma sœur a voulu écrire des romans policiers pour se distraire de sa carrière de physicienne. Et moi, j'étais ingénieure, donc elle a dit, bon, pour s'amuser, on va faire un roman avec un mandarin. Et donc, on s'est dit, oui, d'accord, on va prendre le mandarin, cet aïeul, et puis on va lui le mettre dans des situations pas possibles où il sera obligé de se battre contre des coups de jarret, il va prendre des coups, on va le laisser pour mort. Et ce sera notre revanche, entre guillemets, contre cet aïeul. Donc, il a été inspiré par quelqu'un de réel, mais bon, on l'a rajeuni, on l'a rendu très beau et séducteur. Et on lui a donné le prénom de notre père, Tan, et je ne sais pas pourquoi il s'est reconnu tout de suite dans ce, dans ce mandarin jeune.
On va partir beaucoup plus en arrière. Le règne des lions. On est à Bordeaux, l'Aquitaine, et on sait bien que l'Aquitaine, la Guyenne, tout ce secteur-là, dans l'histoire de France, a été très disputé entre la France et l'Angleterre. Et qu'évidemment, tout ça aura des répercussions, la guerre de Cent Ans, et toutes ces choses viennent ou se préparent dans votre œuvre. C'est une période qui vous passionne, Mireille Calmel, pourquoi ?
Par hasard. C'est terrible de dire ça. Non, en fait, j'ai écrit le Lied d'Aliénor tout à fait par hasard, puisque je suis venue m'installer en Aquitaine en 1585. Et voilà, et je suis tombée devant l'admiration dans les ruines d'un château, le château de Troubadour, qui était contemporain d'Aliénor. Et voilà, et on m'a raconté l'histoire de sa légende, l'histoire de Geoffrey Rudel, et j'ai pas vraiment eu envie d'y croire. Et à ce moment-là, j'ai commencé à écrire le Lied d'Aliénor, ce qui est devenu le Lied d'Aliénor. Et puis le succès de ce livre, donc avec. C'était prévu que ce soit une grande saga, plusieurs tomes et tout ça, si je trouve. Que je trouve non, un éditeur de toute façon. Et puis le succès du Lied d'Aliénor, parce que c'était un très très bon succès de librairie, a fait que j'ai pas voulu continuer parce que je me suis dit que si jamais je sortais la suite, on penserait que ce serait c'était forcément une suite commerciale. Or, moi je sais toujours su que j'étais un écrivain, mais je n'ai pas besoin de le savoir, donc il fallait absolument que je l'explique. Et le seul moyen de le prouver, c'était d'écrire autre chose derrière, de me remettre tout de suite en danger et en question. Et voilà, et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit 14 livres avant d'écrire celui-ci, et je crois que je suis arrivée à un moment donné où je me suis dit, bon, ben maintenant ça va, je crois que tu as fait la part des choses, tu n'as plus rien à prouver à toi, peut-être encore aux gens, mais bon, voilà, beaucoup moins, en tout cas, personne n'ira contre le fait qu'aujourd'hui, ce livre-là, il est légitime, il n'est pas un coup de pub ou un coup de quoi que ce soit. Voilà, donc c'est pour ça que j'y suis revenue. Mais il a toujours été là dans ma tête et dans l'attente.
On va plonger dans les années 1160. Je passais une nuit tourmentée, peuplée de figures étranges qui me harcelaient de leurs grimaces. Nous étions rentrés au castel de l'Ombrière avant même que ce coup de jarret ne ressorte de l'auberge. Il nous tournait le dos, parlait à voix basse face à la cheminée, et je m'étais appliqué à ne pas dévisager ses compagnons, même si l'envie m'en chatouillait. Mieux valait ne point attirer l'attention sur Henri et Aliénor. Si j'ignorais la raison de sa présence en Aquitaine, elle n'augurait rien de bon. Geoffrey fut de mon avis. L'un et l'autre, nous en gardâmes l'inquiétude et le secret, refusant de gâcher les agréables moments de la journée qui s'annonçaient. elle se fondit dans les préparatifs de l'Avent. À cette occasion, Bordeaux tout entier était en effervescence. Depuis quelques jours déjà, un marché couvert bordait la première couronne du château de Lombrières, décoré de bannières. On y vendait oublies et pommes d'amour, beignets et maranchons, mais aussi poulets et cannes qui jacassaient bruyamment, cailles dans leurs cages grillagées, jarres hurlant sur le passage des enfants cratifs, légumes à profusion, fruits confits, lampes à huile, chapelles, tissus, tapis, épices venues d'Orient, bassines et brocs, brosses et balais, pignes de pain, recouvertes de fils dorés ou de peinture, et même du bon temps. Car nombre de gens s'ébaubissaient devant des joglards qui, de cabriole en ritournelle, laissaient leurs animaux savants tendre ses bouts. Dans cette cohue, bourgeois, bateleurs, négociants, mendiants ou voleurs se promenaient à l'envi. Les uns jugeant la marchandise, les autres la chapardant, au risque de se voir amputés d'une main par les gendarmes. Ça rigolait pas à l'époque, Mireille de Mel. Est-ce que quand vous rédigez un passage comme celui-ci, vous avez travaillé le langage de l'époque? Ou est-ce que c'est une recréation?
Non, j'utilise des termes de l'époque, mais pas beaucoup, parce que je prends toujours soin à ce que ça reste lisible et compréhensible dans la phrase, par la tournure de la phrase, par tout ça. Mais j'essaie, oui, de placer des termes, soit des termes régionaux, soit des termes plus larges, pour qu'il y ait... Mais, enfin, je ne fais pas vraiment exprès, ça vient naturellement, parce que c'est un langage que j'ai pris l'habitude maintenant de l'utiliser. Alors après, il y a des choses un peu plus spécifiques, suivant... Bon, là l'Aquitaine, maintenant, je la pratique un peu, depuis du temps que j'y suis. Mais quand je vais dans d'autres endroits, dans d'autres régions, je fais un travail sur l'archive, et du coup... arriver à trouver des petites choses spécifiques des lieux, comme la cuisine, les tenues vestimentaires, des choses comme ça. Ça, c'est plutôt simple.
Poursuis un peu cette description, le marché, les personnages, ce qui se passe autour. Voilà, on a une sorte de panoramique, un petit peu, pour rentrer dans le vif du sujet. Cette agitation se retrouvait en chaque endroit du palais. Aux cuisines, outre le repas de midi et du soir, on préparait déjà le banquet qui devait, le lendemain, rassembler les 400 convives choisis avec soin par la duchesse. Aliénor avait elle-même décidé du menu, qu'elle voulait opulent, épicé et inventif, de sorte que chef, commis et marmiton ne levaient pas le nez des fourneaux. Au dehors, mulets et chariots franchissaient la poterne sous le regard bienveillant des gardes en un incessant va-et-vient. Les dames de compagnie d'Aliénor s'attardaient devant leur mâle pour choisir leur toilette. Les hommes se délectaient de grasses plaisanteries ou d'histoires de chasse. Regrettant de n'avoir plus le temps de soulever le tablier d'une servante ou de s'attarder sur le port hautain d'une autre, des valets dressaient ces tables, couverts et décorations dans la salle du banquet. Les échansons rassemblaient le vin tasté par le connétable, là où des valets s'affairaient à cirer les œufs, d'autres les lattes du parquet, dans la cour du palais, arrivaient peu à peu litières et chevaux aux armes des barons d'Aquitaine. Des garçons d'écurie les dégageaient prestement. Prenant le relais, des laquais empressés ramenaient les arrivants vers ceux qui les avaient précédés à l'intérieur, d'autres les redirigeaient vers leurs appartements. Semblant protéger ce remue-ménage, un ciel aussi clair que celui de la veille laissait un soleil franc embellir les visages et réunir ceux que les distances et les occupations avaient depuis trop longtemps éloignés. Quand on décrit cette période, on a l'impression que les banquets, en tout cas dans certaines catégories sociales, jouaient un rôle important. Les distances aussi, puisqu'on parle de retrouvailles, de gens qui ne s'est pas vu depuis longtemps.
Alors là, on est dans un contexte un peu particulier, puisqu'on est dans le contexte de Noël, et puis il y a une couplinière, donc il y a forcément une grosse assemblée de notables, on va dire de notables, c'est plus simple. Oui, les banquets, à la cour d'Aliénor en tout cas, ont toujours une très très grosse importance, parce qu'ils drainaient à la fois, donc c'est notable, mais ils drainaient aussi beaucoup de troubadours, beaucoup de vie, et Aliénor était très friande de ses cours d'amour, elle était très friande de musique, elle était très friande d'art sous toutes ses formes. Donc c'était très vivant, il y avait des tournois, vous auriez pu citer aussi un passage dans lequel je décris des joutes sur la Garonne, et qui comme ce passage-là est historique. Donc c'est assez rigolo, voilà, on voit un abbé qui parce qu'on lui a promis quelques deniers, il va se donner un spectacle, et bah, c'est des bras comme des moulins avant de tomber dans l'eau, enfin voilà. Donc ça, des fois c'était très très drôle parce que c'était le moment où le peuple finalement, lui qui assistait, habitants à l'aide de l'extérieur et qui ont distribué, quand il y a des grosses réunions comme ça, ont distribué de la nourriture, finalement profiter à la fois des jeux, profiter de tout un tas de choses, même si ce n'était pas les premiers à regarder et en jouer, quoi. Mais c'était plutôt sympa. Voilà. Après, évidemment, il y a le petit peuple, c'est une autre histoire. Mais là, dans le contexte d'Aldenor elle-même, c'était très vivant. Enfin, en tout cas, d'après les témoignages qu'on en a.
Meurtre sur le Palatin, Christina Rodriguez. On va vous présenter le personnage, pas à vous, bien sûr, à nos lecteurs. Le personnage de Caïso, qui est votre enquêteur.
Le mot Caïso.
Bon, dites-nous en plus, avant que je lise un extrait.
Non.
Bien joué. Le lit de Caïso fut agité d'une violente secousse. Encore un tremblement de terre. C'était le deuxième depuis son arrivée à Pompéi. Le jeune prétorien se réveilla en sursaut, haletant, prêt à se précipiter dans la cour de la caserne pour se mettre à l'abri d'un éventuel effondrement, mais vit sa jeune cousine au-dessus de lui, qui le secouait comme un tapis sur le rebord d'une fenêtre. « C'est vrai ce que dit Mustella ?» pressa-t-elle à demi couché en travers de son torse. « Tu l'as vu ? Raconte-moi, Caïso, de quoi a-t-il l'air ?» Celui-ci immobilisa ses bras frêles d'une seule de ses grandes mains en lui attrapant les poignets et vissa ses yeux clairs à ceux de la jeune femme, d'un marron vert presque doré, comme de jeunes noisettes. « Concordia, criait-il, en s'asseyant sur sa couche le cœur battant. De sa main libre, il se frotta le visage baigné de sueur, sur les joues duquel commençait à percer une barbe blonde et essaya d'émerger du sommeil agité dans lequel il avait sombré après avoir ramené à la caserne le corps retrouvé dans la ruelle. Respirez calmement, inspirez, expirez et surtout se reprendre. Il s'appelait Kaiser Concordianus Licinus, centurion de cohorte de la garde prétorienne et directement sous les ordres de l'empereur Tibère. Il n'était plus à Pompéi depuis des mois, avait ses quartiers à Rome, dans l'une des maisons de la famille impériale, sur le Palatin, et il n'y avait aucun tremblement de terre. Son souci le plus urgent était un meurtre perpétré durant la nuit. « Alors, assista Concordia en sortillant pour se libérer, raconte !» Et il allait y en avoir un second, si elle ne lui fichait pas la paix dans la minute. « Que fais-tu dans ma chambre, Concordia ? » demanda-t-il en détachant lentement ses syllabes, menaçant. Elle lui répondit par un regard désarmant. « Ustela a dit que vous aviez vu ce que vous aviez... Ustela a dit que vous aviez vu Apollonius, s'écria-t-elle, comme si c'était une évidence. Il la lâcha et quitta son lit en agitant un doigt accusateur devant la truffe Kyo, qui somnolait tranquillement sur la descente de lit. « C'est comme ça que tu protèges ton maître, toi » gronda-t-il, « en laissant entrer n'importe qui ?» Il a peur des jeunes femmes, Caïso.
Il les aime un peu trop, je crois.
Là, on a affaire à Concordia, c'est un petit peu particulier.
Peut-être un petit mot sur Concordia.
Alors, on va expliquer un petit peu Caïso. En fait, c'est un officier de la garde prétorienne. La garde prétorienne, c'était la garde rapprochée des Césars. Là, il se retrouve, on est donc à Rome, on est sur le Palatin, qui est la colline de Rome où habitait toute la noblesse romaine. Et il vient d'y avoir un meurtre, justement. Et Caïso, qui vient de retourner à Rome, vient de se réveiller après avoir passé une nuit d'enfer, avoir amené ce corps à la caserne. Et donc, il est un peu perdu lorsqu'on se réveille. Et Io, dont on entend parler, c'est pas un chien, c'est un léopard qui se prend pour un chien, qui est la compagne de Caïso depuis pas mal de temps. Et enfin, Concordia, c'est sa cousine qui est folle amoureuse de lui et qui lui colle aux fesses, si on peut dire, depuis qu'elle est en âge de marcher.
Un autre extrait, alors là on repart beaucoup plus loin dans le temps, avec Voltaire, toujours mort dans le boudoir. On y parle aussi de livres interdits, sans qui la marquise, de facto, puisqu'il contient plus d'une page, répondit le libraire. Leur choix s'arrêta sur Histoire du prince Aprius, le Sylphe et Histoire du chevalier des Grieux de Manon Lescaut. Ils demandèrent où l'on pouvait rencontrer les auteurs. Voyons. Ces romans-là n'ont pas d'auteur, hormis peut-être Manon Lescaut, depuis que l'abbé Prévost s'est réfugié à l'étranger. Ils achetèrent les trois, et aussi le répertoire de M. Langlais. « Cela me fait bizarre d'acquérir le livre de quelqu'un d'autre, » dit Voltaire. « J'ai l'impression de commettre un impair. » Partager les deux points communs à la plupart des écrivains. Se plaindre du faible montant de leur vente et ne jamais acheter l'ouvrage d'un collègue, sauf à y être contraint par force. Il prit aussi un exemplaire de la bulle Unigenitus. Peut-être pourrait-il en tirer un petit commentaire de sa façon, pour le lire dans les salons du faubourg Saint-Honoré, puis dans ceux de la Bastille. Il paya ses achats et les donna porter à Milan, car il tenait à sa réputation. Tandis que vous, un clerc de l'Église, vous êtes insoupçonnable, lança-t-il à l'abbé, déjà chargé du sac de paille. Alors ces personnages qui discutent de livres sous pseudonyme, de livres interdits, on voit bien qu'il y a beaucoup d'humour, puisqu'on parle des salons de la Bastille. Ces auteurs du XVIIIe siècle, ils sont toujours menacés par un petit séjour à la Bastille ?
Oui. Tous les auteurs du XVIIIe siècle passaient à un moment ou à l'autre à la Bastille. En général, il y a un bon moyen pour gagner de l'argent au XVIIIe siècle quand on écrivait des livres, c'était d'écrire des livres cochons. Parce que ça se vendait très bien, mais c'était interdit. Alors, la police vous faisait la chasse. Alors, évidemment, elle les publiait sous pseudonyme, mais elle essayait de savoir qui c'était. Et quand elle s'apercevait, quand elle découvrait quel était l'auteur, on envoyait l'auteur réfléchir sur ce qu'il avait fait à la Bastille pendant un temps plus ou moins long, suivant qu'il avait des relations pour l'en faire sortir. Donc, en effet, et l'abbé Prévost, qui a écrit Manon Lescaut, qui est aujourd'hui un livre qu'on lit toujours, a dû s'enfuir en Hollande, où il a passé plusieurs années avant d'obtenir son pardon.
On va repartir au Vietnam, on se promène beaucoup, finalement, dans le temps et dans l'espace. Le sbire Koa avançait sur la piste déserte avec le pas furtif d'un voleur. En ce début d'après-midi, les paysans, accablés par la chaleur, dormaient sur le natte de jonc pendant que les buffles se blottissaient à l'ombre. Immobile sur une branche, un macaque à queue de cochon, les pieds en grignotant un bourgeon juteux. Sous les ramures, babillaient des merles à tête grise, rythmant sa progression de leurs cris. Le cœur lourd, il n'entendait rien de concert arrêté, rien de concert aérien. La tente, la nuit dernière, près du temple du crapaud à trois pattes, l'avait miné. Il avait ressassé ses choix, qui étaient plus discutables les uns que les autres. Il avait cédé à la peur, à l'amour, à toutes ces émotions troubles que la raison tentait de tenir à distance. Il avait eu beau se persuader qu'il ne faisait de mal à personne, au fond de sa conscience se tordait le serpent de la trahison qui lui rappelait sa déchéance. Lors de la surveillance nocturne, il avait senti ses écailles glisser sur son dos, une fusion glacée qui remontait le long de sa colonne vertébrale. Il avait patienté, suspendu entre les remords et la haine de soi, espérant que l'action le libère enfin de cette gluante léthargie. Lorsque les cris s'étaient élevés du temple, il avait bondi, franchissant le muret qui longeait les bâtiments. Il avait foncé sur le local illuminé où un jeune taoïste tournait vers lui une figure effrayée, trois corps étendus par terre. Le plus jeune, en habit de moine, respirait encore à côté d'un maigrelet qui gémissait doucement. Plus loin, un homme dans une flaque de sang, une pioche à ses pieds. Le vandale, au moment où il s'était penché sur lui, Kao avait su que c'en était fini des serments de fidélité au mandarin Tan, qu'il était en train de faillir à toute la confiance que ce dernier avait placée en lui. Faisant écran de son corps, il avait fouillé le cadavre, espérant un instant ne rien découvrir, puis ses doigts avaient ramené un papier qu'il avait empoché prestement. Il n'y aurait pas de retour en arrière. On ne va pas trop en dire, bien sûr, puisqu'on ne va pas dévoiler cette enquête du Manaratan, les corbeaux de la mi-automne, mais on voit bien quand même que, même si ça n'est pas dit clairement, il y a toujours, c'est en tout cas une partie de ces personnages, un lien entre le réel, les faits, l'enquête, et puis aussi toujours un peu, que ce soit dit ou non, des superstitions, des démons, des inquiétudes. On est toujours entre le réel et puis ce Vietnam du 17e où les esprits ont l'air d'exister, de nous entourer et de peser sur les choix des personnages.
Oui, en effet, il y a le monde des faits réels, de l'enquête que mène le mandarin et le monde des esprits qui, pour tous les viettes, entoure et englobe et s'insère dans le monde des vivants. Par exemple, chez les Viettes, il y a toujours cette liaison très intime avec les morts, avec une fête qui s'appelle la fête des âmes errantes, qui, une fois par an, fait qu'on allume de l'encens, on fait brûler des vêtements, on offre de la nourriture à des âmes errantes, c'est-à-dire des défunts qui n'ont pas trouvé de sépulture ou bien qui ont subi des crimes violents et qui reviennent clamer vengeance. Donc il y a toujours dans une enquête cette dimension un peu surnaturelle, un peu superstitieuse qui vient se mêler et quelquefois ça permet de brouiller un peu la frontière entre le réel et le rêve.
On va repartir très très en arrière aussi, mais un petit peu plus, janvier 1164. Parfois on parle de choses extrêmement violentes dans le moment historique. Janvier 1164 n'était pas fini qu'il faisait placarder les constitutions établies en la ville de Clarendon. Outre les éléments soulevés par Henri au cours du synode, leur texte réduisait l'ingérence du pape et les privilèges du clergé, les ramenant à l'usage qu'ils avaient du temps de son grand-père, Henri Ier Beauclerc. Un des articles, tout particulièrement, souleva remous. De fait, de nombreux abus avaient terni l'image de l'Église. Quand ce n'était pas ces prélats de graisse et de fourrure, c'était des religieuses qui s'étaient ouvertes à la fornication avec des convers, comme en l'abbaye d'Amesbury, ou des prieurs qui copulaient en sodomie avec des enfançons hurlant de douleur. Les scandales éclataient, entraient au tribunal de Dieu et n'en ressortaient plus. On éloignait les coupables qui avaient acheté leurs indulgences et l'affaire s'en tenait là. Je savais qu'Henri estimait inacceptable et depuis longtemps ces pratiques. Alors, il décida que désormais, tout clerc coupable de fautes graves ou de meurtre,